Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
L'émission jeune de Radio Présence.
Et bonsoir à tous, bonsoir à vous sur le plateau. Salut Rachel.
Salut Léopold.
Et ce soir, on se retrouve pour une nouvelle émission de Soif d'autre chose, l'émission de Radio Présence qui est animée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse. On est content ce soir d'animer avec Mathéo une émission sur le dialogue interreligieux. Et on a aussi deux super invités qui vont se présenter juste après. Et bah c'est parti.
Bonsoir à tout le monde ce soir. Donc on a la chance ce soir d'être avec Raphaël qui est étudiant en théologie. En philosophie à Toulouse, voilà, qui fait partie de la paroisse étudiante depuis un petit bout de temps maintenant. Et on a également Zahi qui est libanais et chrétien maronite, qui est voilà, aussi également ingénieur en aéronautique. Je pense que pour débuter cette émission, on peut, je pense, te demander, Zahi, parce que tu viens du Liban et donc tu es chrétien maronite. Peut-être juste nous expliquer, pour commencer cette discussion, en quoi ça consiste. Est-ce que c'est pareil qu'un catholique romain ou pas? Enfin voilà, juste une petite précision sur ça.
Les maronites, ça porte leur nom, c'est ceux qui ont suivi Saint Maron.
Okay.
Saint Maron, c'est un saint de l'Orient, de la zone entre la Syrie et le Liban aujourd'hui, qui date du 5e siècle. Et donc c'est pour ça, c'est ceux qui ont suivi les disciples de Saint Maron, on les appelle aujourd'hui les maronites. Et les maronites, ils sont en communion totale avec l'Église de Rome, donc 100% catholique.
Oui, c'est important de le préciser, ça, voilà.
100% catholique. Et comme le rite latin, c'est le rite maronite. Donc, c'est des rites différents, mais ça appartient à l'Église catholique universelle.
Donc, la seule chose qui diffère, ça va être la liturgie, quoi.
Essentiellement,
oui.
Essentiellement, okay. La liturgie, la foi, elle est commune avec l'Église catholique.
Ouais. Okay. Il y a pas de... Très bien.
Je pense que c'était important de faire cette précision avant de commencer. Moi, je pense que c'est intéressant de vous demander à tous les deux ce qui vous rapproche du thème d'aujourd'hui, qui est le dialogue interreligieux. Voilà, en quelques mots, expliquer pourquoi vous êtes là ce soir.
Alors, pour moi, c'est parce que j'ai grandi dans un quartier assez populaire qui était très multiculturel et aussi multiconfessionnel. C'est-à-dire que mes amis d'enfance sont tous musulmans. J'ai grandi entouré de musulmans. Et donc, c'est une religion que je connais assez bien de par mon contact avec les musulmans et les musulmanes de mon enfance, de mon entourage. Et parce que donc forcément, l'islam, c'est une religion qui m'a intéressé étant entouré par des musulmans.
Oui.
Donc, c'est vraiment un lien que j'essaie de cultiver un petit peu. Voilà, quand mes amis fêtent le ramadan, je suis très content pour eux. Et puis cette année, en plus, on a eu la chance de fêter, eux de faire le ramadan en même temps que nous, on faisait le carême.
Oui,
je trouvais que c'était spirituellement assez fort.
Okay.
Et eux ont fêté l'Aïd à quelques semaines seulement d'écart avec Pâques pour nous.
Okay.
Donc c'était des moments assez forts, je trouvais ça hyper beau et symboliquement, spirituellement, en signe d'unité entre les chrétiens et les musulmans.
Mm-hmm.
Donc ce lien avec l'islam qui a expliqué pourquoi on m'a proposé de venir ce soir.
Et ben on est ravis de t'accueillir.
Ouais.
Et de mon côté, c'est un peu similaire à ce que disait Raphaël. Le Liban, c'est un pays multiconfessionnel, même sur sa petite taille,
mm-hmm.
10 000, on parle de 10 400... kilomètres carrés,
okay.
Donc c'est relativement très petit comparé à d'autres pays, et c'est un pays multiconfessionnel où des religions du monde cohabitent ensemble sur un petit espace.
Mm-hmm.
Et donc j'ai grandi d'une manière tout à fait naturelle dans cet milieu multiconfessionnel où des églises, où les cloches de l'église sonnent en même temps qu'on entend aussi des mosquées, et
okay.
Où le mur de l'église est aussi sur le mur des mosquées.
Okay.
Moi, je viens de Byblos, donc Byblos, c'est une ville, on va dire, sur la Méditerranée. De base, c'est une ville phénicienne, et c'est une ville très piétonne dans son centre-ville. Et quand on se balade dans son centre-ville, on voit cette proximité entre les différents lieux de culte multiconfessionnels.
Ok.
La question, c'est est-ce que la cohabitation se fait bien au Liban? Est-ce que ça se passe bien entre les différentes communautés religieuses? Parce que moi, par exemple, j'ai l'exemple de l'île de la Réunion, où j'ai grandi, où on a beaucoup de communautés religieuses et il y a un relatif, une bonne entente, voire une discussion entre les responsables des différentes communautés. Et l'histoire a prouvé que ça s'est assez bien passé. D'ailleurs, pour l'anecdote, la toute première mosquée de France, en fait, c'est celle de l'île de la Réunion, à Saint-Denis, la capitale de l'île. Voilà. Mais donc, pour le cas du Liban, est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a un passif, un historique? Dis-nous un peu.
Le Liban est un pays avec un grand historique très connu et très étudié aussi. C'est vrai qu'il y a eu des périodes plutôt sombres, mais ce qui fait l'identité du Liban, c'est le fait de vivre ensemble. C'est le fait de sa nature. Le Liban, il a été construit sur le vivre ensemble. Après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes sombres, on va dire, à travers l'histoire, notamment récemment, dans les années 75, la guerre civile du Liban. La religion ou le vivre ensemble, c'est ce qu'il y a derrière la guerre? Je ne suis pas certain. Le Liban, c'est aussi une zone géographique ou géopolitique très, très compliquée, très, très complexe à gérer. Et c'est cet environnement géopolitique qui fait aussi, qui rend aussi le vivre ensemble dans des périodes du temps plus difficiles.
Donc les tensions ne sont pas forcément religieuses, mais peut-être politiques, voire économiques, diplomatiques. Et des fois, il y a peut-être des prétextes religieux par-dessus, c'est ça que tu nous dis?
Exactement.
Ah oui, exactement.
Et moi, j'ai une question peut-être pour toi, Raph. Comment est-ce qu'on va... Enfin, moi, je crois aussi avec toi, Zaïd. Comment est-ce qu'on va parler ou discuter de notre foi avec des gens qui n'ont pas... Parce que pour le coup, qui n'ont pas du tout la même foi que nous. Parce qu'on... On différencie bien le christianisme, le judaïsme, l'islam, tout ça, c'est des religions qui sont très différentes, même si les trois grandes religions monothéistes et qui ont un socle commun, peut-être avec le début pour nous de la Bible ou du Coran ou de la Torah, même s'il y a un petit socle commun historique, ça reste des religions qui sont très différentes dans ce qu'elles enseignent, etc. Comment est-ce qu'on discute avec des personnes de d'autres religions sans trahir sa foi, dans le respect de l'autre, voilà, et tout en essayant aussi peut-être parfois de dire à l'autre ce qu'on vit nous, et donc essayer de lui témoigner de ce qu'on vit. Mais oui, en fait, c'est dans les deux sens, hein. Moi, oui, je parle à un musulman, je me dis si je peux convertir le musulman, merci Seigneur. Et puis lui, il doit se dire si je peux le convertir à l'islam, et merci Dieu aussi. Voilà.
J'aurais tendance à faire une réponse un peu bateau, dans le sens de il s'agit de vivre sa foi pour soi-même, enfin de vivre pleinement sa foi déjà avant d'en parler. Je pense à une anecdote que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. En fait, mes voisins du dessus étaient musulmans, et sont toujours musulmans, je crois c'est toujours mes voisins du dessus, enfin c'est chez mes parents, donc j'y suis plus maintenant, mais donc c'était une famille c'est une famille musulmane, et à chaque fois pour l'Aïd, ils nous ramenaient un plat. Mais depuis tout petit, moi je voyais au jour de l'Aïd un plat venir chez moi, et j'étais petit, je m'en rendais pas compte, j'étais un peu bête, et je croyais qu'ils nous ramenaient leurs restes parce qu'ils avaient trop fait à manger. Sinon, on était une famille nombreuse, donc je faisais beaucoup à manger à chaque fois, il y avait des restes, et donc je pensais qu'ils nous ramenaient leurs restes, et je n'osais pas trop le dire à mes parents, mais je mangeais, c'était très bon, et je me disais genre pourquoi ils nous filent leurs restes. Et un jour, quand j'étais un peu plus grand, je devais être au lycée, et je dis à mon père, ouais, mais en fait pourquoi est-ce qu'on prend leurs restes? Et déjà mon père me regarde genre t'es bête ou quoi? Et il me dit non, mais en fait ils nous peuvent pas leurs restes. Et il me dit, en fait, à chaque fois que c'est l'Aïd, les musulmans préparent un plat pour leurs voisins d'à côté. Et c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'ils allaient préparer le repas de l'Aïd, les repas pour eux, il y avait un plat pour nous, leurs voisins, okay, pour partager la joie de leur fête. Et j'étais comme un fou de découvrir ça, en fait, parce que on faisait pas du tout ça, enfin, on fait pas du tout ça encore aujourd'hui. Mm-hmm. Et alors, moi, je suis chrétien depuis toujours, et je suis très attaché à ma foi, à ma relation au Christ. Mais je me dis, mais si j'avais vécu ça sans être chrétien, j'aurais très bien pu devenir musulman, tellement j'ai été marqué par le geste d'amour, de charité, de bonté qui sortait d'eux. Et ça commence par là, en fait, je pense, par vraiment vivre pleinement notre foi. Je pense que nous aussi, on pourrait très bien vivre quelque chose comme ça pour Pâques, d'aller partager notre repas auprès des autres. Et en fait, c'est par là, c'est par vraiment cette bonté qu'habitent nos religions respectives, le fait de vivre pleinement cette bonté-là, cette miséricorde et ce partage d'amour qui est le premier pas. Et moi, c'est ça qui... J'étais à peu près au lycée quand j'ai découvert ça, quand mon père m'explique ça. Et où j'ai donc... Mais je me suis un peu intéressé à l'islam. Donc, c'est vraiment par un geste concret d'amour que j'ai fait ça. Et moi-même, quand je me suis vraiment rapproché de ma foi en terminale, et où j'ai commencé à prier davantage, où le rapport aux pauvres s'est vraiment posé comme question dans ma vie, suivre le Christ en étant auprès des pauvres, des plus faibles, vraiment configurer ma vie au Christ, et ben c'est là en fait où mes amis musulmans ou même athées agnostiques m'ont posé des questions. Et si vraiment ce qui est premier, ce n'est pas le fait de vouloir convertir l'autre, mais vraiment une relation d'amitié, ce que le pape François nous disait dans Fratelli Tutti, et il nous parle vraiment de cette fraternité avec tout le monde. Il dit que c'était vraiment l'amitié qui évangélisait. Et moi, j'ai vraiment découvert ça avec mes amis musulmans aujourd'hui encore. On en parle un peu moins parce qu'on en a beaucoup parlé à une époque. Moi, je parlais de ma foi, eux me parlaient de la leur. Mais voilà, ça fait plusieurs années maintenant, on en parle un peu moins, mais c'est toujours l'occasion pour la période du Ramadan, que moi je leur pose quelques questions, eux pour la période du Carême, de Pâques, mais c'est quoi la résurrection, c'est quoi le Christ ressuscité. Et en fait, c'est vraiment un échange très apaisé et qui est un partage d'amitié où on parle vraiment de notre foi, où on n'amoindrit pas nos vérités de foi, c'est-à-dire qu'on croit que le Christ est mort et ressuscité pour nous, pour le salut du monde, et que c'est par le baptême qu'on est sauvé. Vraiment, c'est des réalités très fortes, et il ne s'agit pas de les amoindrir pour les partager avec les autres, mais de les dire telles qu'elles sont. Et l'enjeu, c'est vraiment de le faire dans une disposition d'amour, d'amitié, et non pas de récupération, d'accaparement de l'autre en se disant je vais le convertir. Oui. C'est okay, vraiment ouais. Ça, moi, selon moi, qui est important.
Bah, t'as vraiment fait, t'as répondu à la question de manière géniale déjà, et ensuite t'as fait la transition parfaite avec l'interlude musical. On va écouter la joie des guetteurs, donc voilà, reggae, chillax, ça va être sympa. Voilà, on y est.
Yaka 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 yo, good boy. Yaka yaka.
Yaka 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 yo yo, c'était la joie des guetteurs.
Ouais, alors tout à l'heure on parlait d'évangéliser, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Dans le sens où, est-ce que ce serait pas plus intéressant de voir par exemple les points communs qu'on a entre les différentes religions? Les valeurs communes, les principes communs. Par exemple, on parlait de charité, de bonté, de partage, d'entraide, de bienveillance. Je pense qu'il y a un socle commun d'un point de vue anthropologique, malgré la diversité de tout le fait religieux qu'on a pu avoir dans l'humanité. Est-ce que le plus intéressant ne serait pas de regarder la convergence, de laisser chacun vivre sa religion, sa foi, mais de voir les points communs, d'insister dessus dans une démarche de tendre la main, dans une démarche de pouvoir communier, mine de rien, dans des religions différentes? Au lieu d'évangéliser, au lieu de chercher à convertir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dans le cas du Liban, par exemple, ce serait peut-être chercher le conflit, d'essayer de changer l'autre, alors qu'il est, comment dire, il a hérité d'une culture, d'un environnement familial, d'une éducation qui fait que c'est peut-être difficile pour lui de saisir vraiment, par exemple, le catholicisme. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller dans une démarche de compréhension, voire d'empathie, quoi, par rapport à l'autre?
Enfin, pour moi, dialoguer avec l'autre, c'est, dans un premier temps, c'est aller vers l'autre. On ne peut pas dialoguer vers l'autre en construisant des images ou des stéréotypes qu'on a reçus que ça soit juste des idées et que ça ne soit pas du vrai concret ou du contact. Dialoguer, quand on parle du dialogue interreligieux, c'est, pour moi, surtout dans un premier temps, c'est aller au contact de l'autre, c'est s'approcher de l'autre et vivre avec l'autre. Donc, pour vivre avec l'autre, il faut y aller, il faut se lever, et il faut aller voir quelles sont les différences, quels sont les points communs, et bâtir sur ce qui ressemble.
Oui, très bien. Raphaël, peut-être un mot là-dessus?
Moi, j'ai jamais été à l'aise en plus avec l'évangélisation dans le sens de aller dans la rue et dire « Hey, tu connais Jésus ?»
Ça, c'est très, ça fait forceur.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai jamais été à l'aise avec ça. Mais j'ai un peu peur de me répéter, mais il y a vraiment pour moi cette dimension hyper forte de l'évangélisation par l'amitié et par l'accueil. Et j'aime beaucoup ce que vient de dire Zahi sur le fait de ne pas se cantonner aux stéréotypes. En plus, très souvent, chez les chrétiens, il peut y avoir des stéréotypes dans telle ou telle religion, ils pensent comme ça, ils agissent comme ça, mais avec une vision un peu péjorative. Et c'est, je pense, très très important d'aller vraiment à la rencontre de l'autre. Et ça passe par faire des repas. L'été dernier, j'étais dans une communauté, je suis retourné dans mon diocèse dans les Yvelines, diocèse de Versailles, et la communauté dans laquelle j'étais, il y avait une grande population chrétienne et une grande population musulmane, et ils faisaient des temps de rencontre entre eux, et donc j'ai pu participer à un repas. Et donc ces petits moments de joie, de partage, de rencontre avec les autres, nous montrent qu'en fait on a plus à partager on a plus de ressemblance que de dissemblance.
Oui.
Et après, l'évangélisation, faut pas l'oublier que pour nous c'est donc être un visage du Christ, témoigner du Christ. C'est-à-dire, voilà, moi, mes amis musulmans savent que ma foi, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité, que Jésus est le cœur de ma vie. Et donc ça, c'est quelque chose que je partage, et c'est une chose que j'essaye de communiquer autour de moi, et c'est le cœur de l'évangélisation. Voilà, le Christ nous invite à être ses disciples, à être ses témoins. Et cette notion de témoignage, je vous en avais déjà parlé, mais elle est hyper importante selon moi.
Oui.
Simplement, on n'est pas là pour forcer les autres. Mais l'évangélisation, c'est avant tout un témoignage. Je témoigne que dans ma vie, le Christ est mort et ressuscité. Et ça, c'est une chose que je suis capable de partager avec tous, quelle que soit la religion. Ce qui ne veut pas dire que je dois détruire la religion de l'autre. Je sais que moi, pendant longtemps, ma foi, elle se vivait en détruisant la foi des autres. Et vraiment, j'avais beaucoup de hargne et de mépris pour tout ce qui n'était pas le christianisme, que ce soit le judaïsme, l'islam ou toutes les autres religions. En fait, et vraiment, pour moi, il fallait éradiquer tout. Et plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte qu'en fait, ça venait pas du Christ, ça, en fait, cette hargne que j'avais en moi. Et plus ma foi a grandi, plus j'ai été en paix avec les autres religions, en me disant, déjà en lisant le Vatican II, en me découvrant que dans le Vatican II, l'Église nous dit qu'il y a des germes de vérité dans chaque religion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vérité dans chaque religion. Et puis aussi, le Christ nous dit, et une phrase de l'Évangile que j'ai beaucoup méditée et qui m'a fait avancer là-dessus, c'est que le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et donc la vérité, c'est pas 1 plus 1 égale 2, tu vois, une sorte de vérité objective que tu plaques et qu'il faut... et qui doit s'imposer aux autres. Mais la vérité, pour nous, c'est une personne. Et une personne humaine, Jésus, qui est aussi Dieu, mais c'est une personne humaine, c'est-à-dire que c'est complexe. Cette vérité, elle se fait dans une relation, et c'est un chemin, comme toute relation humaine, en fait. Et tout ça m'a beaucoup aidé à apaiser mon rapport aux autres religions et mon rapport à qu'est-ce que c'est l'évangélisation, finalement.
Ça me fait rire que tu dis ça, parce que juste avant de venir, j'ai regardé quelque chose qui m'intriguait. Parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler dans l'Église catholique, c'est quand Jean-Paul II a embrassé le Coran. Et il a expliqué plus tard, je le dis parce que c'est vraiment ce que tu as dit à l'instant, qu'il avait voulu embrasser le Coran, il avait voulu embrasser en lui tout ce qui est en germe de vérité, pouvant mener à la vérité tout entière, qui est le Christ. Voilà. Donc c'est ce qu'a dit Jean-Paul II au moment où il embrassait le Coran. Ça veut dire, j'embrasse les germes de vérité, ces débuts de choses qui sont la vérité et qui est le Christ.
C'est très beau parce que à la fois c'est un geste hyper provocateur, sûrement qu'il y a plein de chrétiens qui ont été choqués par ce geste-là. Et en même temps, le Christ lui-même a été très provocateur à son époque. Donc finalement, le pape
il a
voulu déranger comme le Christ nous dérange. Et donc, et en même temps, c'est très vrai, et il faut aussi l'accepter. Moi, comme je disais, je parlais de l'exemple tout à l'heure de nos voisins qui nous ramenaient un plat. Mais moi, j'ai vu des exemples de charité, surtout des musulmans, parce que c'est avec des musulmans que j'ai grandi. Voilà, mais comme je disais, pour reprendre l'exemple de l'Aïd, quand c'était le jour de l'Aïd, j'étais content parce que quand je sortais dehors, je savais que mes potes allaient partager leurs bonbons. Et je trouvais ça trop, trop bien.
Oui.
Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que... Certes, notre foi, pour nous, c'est la vérité, c'est-à-dire que la vérité, c'est le Christ, et en ce sens, tout est dans le Christ. Mais en même temps, les chrétiens, au sens des personnes ou de la communauté, ont, je pense, en termes de charité, beaucoup à apprendre, selon moi, de par mon expérience, des musulmans, mais ça peut être des autres communautés. J'ai eu la chance de vivre un Shabbat avec la communauté juive dans une synagogue là d'où je venais en région parisienne. C'était magnifique cette dimension communautaire qu'ils avaient. Je me suis dit, mais nos paroisses ont tellement besoin de vivre cette communion là et donc on a encore beaucoup à apprendre des autres communautés religieuses qui, dans la manière dont elles vivent leur charité, leur liturgie, ouais, comme tu dis, elles vivent déjà un peu la vérité, des germes de vérité, comme dit le concile. Ouais,
c'est vrai que je pense que c'est hyper important. Enfin, en tout cas, moi, avant de venir ce soir et tout, je pouvais avoir cet a priori du dialogue interreligieux comme un peu un débat et quelque chose. Enfin, il fallait évangéliser, en fait. Alors que c'est vraiment un dialogue, c'est vraiment une discussion et une un apprentissage du respect et de la cohabitation. Parce qu'en fait, dans tous les cas, en fait, qu'on le veuille ou non, les autres religions, elles existent. Et autant, faire du mieux qu'on peut et trouver ce qu'il y a de beau aussi chez l'autre. Pour grandir nous et pour mieux comprendre aussi notre foi, je pense.
Puis il y a un aspect culturel aussi. Moi, je sais juste, il y a mon frère qui a fait un bout de ses études au Caire, et un soir je l'ai appelé et il me disait, j'ai pas beaucoup de temps, je vais à la rupture du Ramadan, parce que forcément quand ils rompent le Ramadan le soir, c'est... Je sais pas s'il y a un jour particulier où ils font plus la fête que d'autres, mais en fait ils vont tous dans la rue, ils sortent, ils partagent des trucs un peu comme à l'Aïd quand ils partageaient de la nourriture avec vous, voilà, enfin avec ta famille, Raph. Voilà.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là ce soir avec nous.
Merci.
On va passer à la chronique de Louise.
Sanctus. La chronique de Louise.
Aujourd'hui, je voulais raconter l'histoire des moines de Tibérine. Donc, ils ont été béatifiés en 2018 par le pape François. Et c'est une histoire que mon père m'avait racontée quand j'étais petite. Et plus tard, j'avais vu le film Des hommes et des dieux qui la raconte. Et en vrai, c'est un film qui est vraiment génial, il est hyper contemplatif, il est hyper émouvant. Et je conseille vraiment de le voir pour mieux comprendre la vie un peu de ces hommes. Et cette histoire, c'est celle d'une abbaye trappiste en Algérie, Notre-Dame de l'Atlas, qui va être pris un peu dans les tourments de la guerre civile algérienne. Mais ce récit, je trouve qu'il parle surtout de la rencontre entre les religions. Et c'est une vie de prière, de contemplation, mais aussi de travail qui se joue là-bas. Et c'est une abbaye qui est implantée depuis les années 1930, mais après la guerre d'indépendance d'Algérie, la présence de cette abbaye chrétienne en terre musulmane et son sens, elle va être trouvée un peu sur les pas de Charles Foucault, puisqu'elle est un petit peu questionnée. Et ils vont trouver cette voie, être croyant au milieu des croyants. Et c'est cette vocation qui va amener les frères à rester en terre musulmane. Et en 1984, le frère Christian de Chergé, il est élu prieur. Sa connaissance de l'arabe, de la culture musulmane, et vraiment la passion qu'il a envers celle-ci et la découverte de celle-ci va conduire la communauté à son apogée. Et ils vont établir un rapport renouvelé avec les villages alentours. Ils vont collaborer ensemble pour l'agriculture, pour exploiter les terres du monastère, mais aussi par le dispensaire du frère Luc, qui est médecin et qui accueille, par exemple, plus de 80 patients par jour des villages alentours pour les soigner. Voilà, le sens de leur mission, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est assurer une présence, non pas missionnaire apostolique, mais contemplative et priante en milieu musulman, grâce à une communauté stable, unie, fraternelle et laborieuse. Donc les frères, ils vont vivre en harmonie avec les populations musulmanes, et par exemple, ils vont organiser des rencontres entre croyants, chrétiens et musulmans, des rencontres qu'ils vont appeler le lien de paix, pour partager leur quotidien de foi tous ensemble. Mais malheureusement, dans les années 1990, la guerre civile éclate en Algérie suite à des déstabilisations politiques. Et les frères vont vraiment subir plein de pressions pour être poussés à partir même de la France, et parce que il va y avoir un réel danger. Et je me rappelle, c'est quelque chose vraiment qu'on voit très bien dans le film, la montée des tensions, des pressions pour que les frères partent, et aussi la montée de leur peur parce qu'ils sont bien conscients du danger et ils voient bien que ça va un peu mal se finir, ils le sentent aussi. Et une nuit dans le monastère, même s'ils sont défendus par leurs voisins, des terroristes ont pénétré dans le monastère. Et en mai 1996, 7 des 9 frères vont être enlevés, puis assassinés dans les montagnes par les terroristes. 2 vont réussir à échapper, je crois qu'il y en a un qui n'était pas là, et le deuxième qui va se cacher sous son lit, donc les terroristes n'ont pas le trouvé. Et voilà, et je pense ce qu'on doit retenir de leur vie, c'est qu'elle s'est donnée dans un objectif de paix et de dialogue entre les religions. La présence de ses frères dans les montagnes d'Algérie, elle avait vocation de cohabiter en paix pour une meilleure compréhension de l'islam. Et vraiment, je pense que c'est très bien illustré par le père Christian de Chergé, qui était vraiment tourné vers cet objectif, qui était guidé par l'amour de ses frères musulmans. Et il a d'ailleurs rédigé un testament qui est très beau, qui parle de ça, vraiment, je conseille de le lire. Et alors qu'il sent la mort venir, il sent qu'il va être assassiné par les terroristes, il voulait que le sens réel de sa mission et d'expérience qu'il a vécue là-bas ne soit pas détourné par l'assassinat qui va suivre, qui est plus pour des motifs politiques. Et c'était, j'avais lu par exemple qu'il lisait une Bible en arabe, qu'il méditait sur le Coran, vraiment pour essayer d'entrer dans la compréhension mieux de l'islam. Et par exemple, dans son testament, qui est un texte magnifique, il dit « L'Algérie, l'islam, pour moi, c'est autre chose, c'est un corps et une âme. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste, mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, investis par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. » Donc voilà, si j'ai 2 conseils, c'est de lire ce testament de Christian de Chergé qui est magnifique, et aussi de voir le film Des Hommes et des Dieux.
Merci beaucoup à Louise pour cette chronique très intéressante, comme toujours. Merci beaucoup Raphaël et merci beaucoup Zaïd d'avoir été là avec nous ce soir. On vous invite à retrouver cet épisode sur toutes vos plateformes de podcast ainsi que sur le site de Radio Présence. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour parler de l'Eucharistie et de l'importance de la messe dans notre vie en tant que catholique. À la semaine prochaine.
Au revoir.